Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans ce magazine de nature et d'environnement qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaye, avec Ronan Mahé et Florent Layani à la technique aujourd'hui, et assisté de Sophie Ledoré et de Jean-Christophe Pinaza. C'est Maïté Adam qui réalise cette émission. Alors si vous êtes sur la route, une petite humeur tout en couleurs, vous qui êtes amis des fleurs de printemps, des tableaux de Monet, parce qu'après une semaine de soleil, de douceur exceptionnelle, je sais que c'est pas le cas partout hein, aujourd'hui en France, on rêve de déjeuner sur l'herbe, de promenade au bord de l'eau, d'iris, de nymphéa, de giverny, de prairies fleuries, que sais-je. Sans oublier le balai des abeilles, des bourdons, des papillons et autres champions de la pollinisation qui s'en donnent à cœur joie pour fêter le début de la saison. Et à qui l'on doit, rappelons-le quand même, la plupart des fruits et légumes qui atterrissent dans nos assiettes. Avec quand même de gros soucis ces temps-ci du côté des ruches que les ouvrières abandonnent régulièrement sans qu'on sache totalement pourquoi, délocalisation, faillite, 35 heures, que sais-je. Et parmi donc les principaux suspects de cette épidémie, vous avez bien sûr les virus, les acariens, les OGM sauveurs de l'humanité, ou bien des pesticides persistants comme le cruiseur, donc un produit qui vous bousille indifféremment le parasite du maïs et l'abeille et dont l'autorisation de mise sur le marché a été gentiment renouvelée par notre ministre de l'Agriculture pour les semis de ce printemps. Alors expliquez-moi, mon cher Watson, les abeilles qui ont vécu sur Terre pendant 25 millions d'années, comment se fait-il qu'elles disparaissent donc aujourd'hui hein ? Ne me dites tout de même pas que nous y sommes pour quelque chose, nous les humains, mais non ! En attendant la réponse, l'abeille version bio-indicateur butine sans broncher son bon millier de fleurs chaque jour et nous renseigne au passage sur la qualité de l'air des villes et des campagnes. Alors, dans la variété miel d'aéroport, par exemple, vous avez le miel toute fleur, Paris Charles de Gaulle, un miel ambré, élaboré par 120 000 ouvrières, sous contrat avec Aéroports de Paris depuis octobre 2007, dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère de la région Île-de-France. Et en plus, une abeille, hein, ça dégage un peu moins de CO2 au décollage qu'un Airbus A320. Et puis, dans la série « Qui veut dépenser des milliards ?» Eh oui, pour remettre sur pied nos constructeurs automobiles hexagonaux, je vous le rappelle, hein, ce sont des stratèges qui nous pondent des aberrations du genre 4x4 à contre-temps. Eh bien, on attend avec beaucoup d'impatience le miel Grand Prix de France, sponsorisé par le Conseil Général des Yvelines, avec le soutien très actif du Premier ministre. Alors, c'est pas compliqué, hein. On réquisitionne une centaine d'hectares de terres destinées à l'agriculture biologique entre Flins-sur-Seine et les Mureaux, et on bétonne le tout pour en faire un circuit de Formule 1, mais garantie 100% mobilité durable. Ouais. Alors, faut pas pousser, donc évidemment, les bolides ne tourneront pas à l'électricité, non, mais les spectateurs, eux, circuleront en RER. Pour ce qui est des agriculteurs bio, bien soyez rassurés, on leur trouvera bien d'autres terrains. Et puis pour le deuxième plus grand captage d'eau potable d'Île-de-France sous la piste, eh bien on va vous étanchéifier le tout à grand renfort de bitume. Ça fera joli au milieu des pelouses synthétiques. Et oui, le vieux monde grave, futile, suicidaire et cynique est toujours en marche. Et encore de la ressource pour distraire le bon peuple à 250 km/h. La vitesse reste une valeur sûre pour aller dans le mur. Sauf que le spectacle des voitures qui tournent en rond comme des bourdons le dimanche après-midi, c'est peut-être pas le genre de tableau qui suscitera des vocations chez nos artistes peintres. D'ailleurs, à la différence des abeilles, comme dirait l'autre et qui n'est pas forcément Einstein, le jour où la Formule 1 disparaîtra, l'homme aura encore peut-être de belles années à vivre devant lui. Au menu de cette émission, dans quelques instants, ce sera Jean-Marie Pell qui nous parlera du nombril botanique d'un autre vieux monde, à savoir l'Afghanistan. Vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Et puis, avec Walter Bouvet et nos amis de Terra Eco, nous allons faire une petite actualité. Walter Bouvet, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors Walter, vous êtes à France Bleu Loire-Océan, chez vous du côté de Nantes, donc on est très développement soutenable, tout ce que vous voulez, puisque vous ne dépensez pas là, un gramme de CO2 pour cette émission. De quoi va-t-on parler ?
Alors on va parler de la vengeance du bouchon de Liège. Son cousin, le bouchon en plastique, lui taille des croupières depuis quelques années.
Oui.
Mais en fait, le bouchon de Liège est super écolo.
Qu'est-ce qu'on a d'autre alors sinon après
On a les géants du net qui nous donnent des sueurs froides parce qu'ils sont énergivores. Et puis on a l'action de l'ONG Self, une ONG américaine, qui essaie de donner de l'énergie dans les pays pauvres.
Et ben voilà, donc on vous retrouve tout à l'heure. Et puis auparavant, on aura parlé avec Boris Bélanger, de Science et Vie. Boris, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
On va essayer de faire trembler la Terre, mais attention, quand l'homme fait trembler la Terre, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire que l'homme a cette embarrassante capacité, par ses activités, mines, barrages, forages, de faire trembler la Terre comme naturellement la Terre le fait sans notre aide.
Donc effectivement, ça, on n'en a pas encore parlé, c'est tout à fait intéressant. Et puis, pour la route, on va s'offrir un petit Marc Darwin, qui sera Giraud. Hein, pour la place de Darwin, ce sera Marc Giraud qui va nous parler de Darwin, c'est tout bête. Ce sera à la fin de l'émission. Allez, c'est parti en musique, voici Olivia. Elle panique, si si. Soyez cool, vous êtes sur France Inter.
Derrière, elle panique. Fous-moi la paix, ma sale caboche. Tu ne me feras pas sombrer. Je t'aurai à grands coups de pioche si tu ne laisses pas tomber.
C'était donc Olivia Ruiz, nous avons notre bon maître Jean-Marie Pelt qui est avec nous, on va parler avec vous de l'Afghanistan. Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui on va parler de l'Afghanistan et on va en parler un petit peu autrement, parce que vous avez eu, vous, cette chance absolument incroyable donc, d'y aller faire plusieurs séjours. Vous avez, comme on dit, herborisé, donc on va essayer quand même de donner aussi une image différente de l'actualité qui est quand même évidemment extrêmement lourde. L'Afghanistan, on le rappelle, nous avons d'un côté le Pakistan, nous avons l'Iran, nous avons le Tadjikistan, et puis il doit peut-être m'en manquer encore.
Le Turkménistan.
Et voilà.
Voilà.
Alors c'est intéressant parce que donc c'est une véritable plaque tournante à la fois de l'histoire, mais aussi une plaque tournante de l'écologie.
C'est une plaque tournante de l'histoire et de l'écologie. En ce qui concerne l'histoire, je résume très vite parce que c'est tout à fait extraordinaire. Il y a ceux qui viennent de l'Ouest. Alors il y a les Perses. Avec Cyrus, cet immense empereur perse, c'est pas de la grande époque de la Perse du 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est cet empereur-là qui a permis aux Hébreux de retourner chez eux après le fameux exil à Babylone. Ensuite, il y a eu les armées d'Alexandre qui ont été jusqu'à l'Indus. Puis ils ont été effrayés. Les soldats ne voulaient pas aller plus loin. Ils ont dit, on n'entrera plus jamais chez nous. On ne traverse pas. Donc, ils sont restés là. Et ils ont créé la fameuse civilisation gréco-bouddhique. Mm-hmm. Et ça, c'était 3 siècles avant Jésus-Christ. 4 siècles. Et puis après, il y a eu les Arabes musulmans, bien sûr, au 7e siècle. Et l'Afghanistan a été d'un seul coup islamisé. Venant du Nord, cette fois-ci. Venant du Nord, alors il y a eu les Huns, qui ont fait de vastes dégâts.
On ne dit jamais un 1.
Non, on dit plusieurs 1.
Ils sont toujours nombreux. Les...
Oui, c'est ça. Ils ont fait de vastes dégâts au 3e siècle. Ensuite, il y a les hordes mongoles. Alors, Gengis Khan, des noms bien connus au 13e siècle. Et puis Tamerlan, Timur Lenk, au XIVe siècle. Et puis les Russes, qui sont arrivés du nord en 1979. De l'Est, sont arrivés les Hindous, et notamment l'Empire moghol. Et donc l'Afghanistan a été continuellement tiraillé entre toutes ces pressions qui voulaient l'accaparer. Et en définitive, unis par l'islam, ils sont mystérieusement restés quand même une nation tribale, avec des tribus qui chacune ont leur pré carré, ont leur territoire, ont leur tradition, mais c'est quand même resté malgré tout ça une nation.
Jean-Marie, donc en vous écoutant, on comprend bien qu'il y a cet incroyable brassage humain depuis des milliers d'années, et puis aussi depuis là, encore plus longtemps, des millions d'années, un brassage végétal.
Voilà. Alors on va aller à une ville qui est à 200 km sur la rivière Kaboul, tout près des passes de Khyber, qui est la dernière ville de l'Afghanistan en allant vers l'Inde, et le Pakistan, c'est Jalalabad. Et j'ai trouvé, en y travaillant, que c'était le nombril botanique de l'ensemble du vieux monde, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe.
Qu'est-ce que c'est un nombril botanique ?
Eh bien, un nombril botanique, c'est un lieu où convergent des influences extrêmement diverses. Quand on est à Jalalabad, on a un hiver où il pleut un petit peu. C'est l'extrême est du monde méditerranéen. Au monde méditerranéen, il pleut en hiver et il fait beau en été. Le monde méditerranéen, dans ce que j'entends là, c'est climatique. On croit que la Méditerranée, c'est la mer. Pas du tout. Non. Pour un écologiste, la Méditerranée, ça va de Gibraltar à la passe de Khyber. C'est le même climat. Climat très chaud en été, et puis climat humide, très froid sur les plateaux irano-afghans, mais humide en hiver. Bon, mais en été, eh bien, il ne fait pas très beau à Jalalabad, parce qu'il y a la queue de la mousson, qui vient cette fois-ci de l'Est. Mmh. Et donc, la mousson et les pluies méditerranéennes se balancent l'une l'autre. Et donc, les plantes venant de l'ouest méditerranéenne ou du Sahara sont ici à l'extrême limite de leur zone de répartition. Et à l'inverse, les plantes qui viennent de l'Asie du Sud-Est, de la Papouasie et de toute l'Inde et de toute la Thaïlande, etc., sont ici à leur extrême limite aussi. Donc il y a une espèce d'imbrication entre des flores qui touchent à la limite de leur aire. Vous prenez la rivière Kunar. Vous montez, parce que cette rivière monte vers l'Hindou Kouch, vous faites, mettons, 40 km, et aux stupéfactions, qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, vous voyez des oliviers, des chênes, et vous tombez dans la végétation méditerranéenne. D'accord. Vous retrouvez un morceau de Méditerranée là-bas, oui. et des amandiers aussi. Mmh. Alors, vous montez plus loin, et là, vous tombez sur l'immense forêt de cèdres himalayennes splendides, c'est d'une beauté extraordinaire.
On est à quelle altitude à peu près ?
On est à 2000 avec les cèdres. Le cèdre Deodora, il s'appelle comme ça. C'est un arbre qui va monter maintenant, disons, jusque 3000. Oui. Au-dessus de 3000, eh bien, on est dans les Alpes. Alors là, stupéfaction, vous trouvez toutes les plantes qu'on trouve chez nous dans les Alpes en haute altitude. Et vous allez encore plus loin. Et vous arrivez évidemment sur une zone où il n'y a plus d'arbres. On est à 4000 là. Alors on voit les petites fleurettes comme au col de l'Iseran. Mm-hmm. C'est à peu près la même chose. Vous montez encore plus haut, vous êtes à 5500 et vous êtes dans les glaces et les neiges de l'Hindou Kouch.
La différence, bien sûr, c'est qu'au col de l'Iseran, on est un peu plus de 2700 mètres simplement.
C'est voilà, la moitié. Oui. C'est la moitié. Donc vous voyez la mécanique qui est quand même tout à fait intéressante. Sur une distance qui est la même que Nice-Grenoble, vous passez d'une flore qui mélange l'Asie du Sud-Est, le Sahara et l'Arabie, avec une petite plante intéressante, la coloquinte. Vous voyez ce que c'est ? C'est une plante qui rampe sur le sol et qui donne des fruits comme des boules de pétanque ou comme des balles de tennis. Et puis, elle se dessèche. C'est une cucurbite, c'est des petits melons. Mmh. Elle se dessèche et puis on entend, quand on les agite, on entend les graines qui circulent dedans. Il y a aussi, venant de cette région du sud-ouest, il y a plusieurs plantes qui sont très typiques, dont des jusquiames très toxiques. Et venant De l'autre côté de l'Inde, alors il y a quelque chose de très beau. C'est le laurier rose des Indes. Nous aimons bien notre laurier rose, hein, il est joli. Mais le laurier rose des Indes est beaucoup plus joli parce qu'il est plus dense, plus ramassé. Et il a une couleur d'un rose rouge puissant. C'est une plante magnifique. Et puis il y a du datura qui vient de l'Inde aussi, qui n'est pas très fréquentable. Il ne faut pas le manger en salade. Non. Sinon, votre carrière est brusquement abrégée.
Poison.
Fussiez-vous botaniste.
Bien sûr. Alors vous qui êtes un homme de paix, Jean-Marie, c'est vrai que de voir cette cohabitation végétale, florale, est quelque chose d'extrêmement apaisant dans un pays qui est toujours extrêmement agité.
Alors, honnêtement, je suis perplexe parce que nous avons beaucoup circulé dans ce pays. J'y suis resté quand même plusieurs mois, deux fois. Et l'accueil, l'hospitalité dans les villages les plus reculés était formidable. Et disons, la qualité de relations humaines était merveilleuse. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça bascule vers l'islamisme? Ou que certaines fractions basculent sur l'islamisme? Je n'en sais rien. Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Mais je sais par contre qu'il y avait déjà des rivalités tribales très fortes. Et quand j'ai arborisé précisément dans la vallée du Kunar, en montant, comme je viens de le dire, nous étions accompagnés par des soldats de l'armée afghane qui avaient baïonnette au canon, qui étaient dans notre petit car. Chaque fois qu'on sautait sur des pierres, les baïonnettes se fichaient sur le plafond.
Oui.
Ils se cramponnaient aux baïonnettes pour les faire redescendre. C'était la tranche et les baïonnettes à l'envers, si je puis dire. Donc, nous étions protégés.
Ouais.
Nous avons été là protégés parce que c'est les zones tribales.
Mmh.
Et dans les zones tribales, il y a toujours eu beaucoup d'agitation. Mais maintenant, nous sommes devant ce problème des talibans et de l'islamisme que je trouve terrifiant. Alors, j'ai entendu un mot l'autre jour à la télévision, c'était le ministre de la Défense qui parlait de pacification. J'ai pas aimé. Ça m'a rappelé l'Algérie. On a entendu ce mot des milliers de fois. Et puis, ça n'a pas marché. On a quitté l'Algérie. Et moi, je pense, alors profondément, que si on ne trouve pas de solution politique, ça ne marchera jamais. Et je pense profondément que nos petits gars, quand ils sont harnachés en guerriers et qu'ils débarquent dans une petite maison afghane d'où les petites filles et les petits garçons sortent en poussant des cris, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça ne marche pas comme ça. Donc je pense qu'il faudrait qu'on trouve des terrains d'entente en jouant habilement sur les différentes particularités des différentes ethnies. Je ne sais pas si on peut faire une armée afghane, franchement, parce que les Hazaras détestent les Pashtuns détestent les Tadjiks. Alors s'ils sont dans une même armée, ils se détestent tous. Peut-être que dans un cas comme ça, il eût fallu faire des bataillons Hazaras, des bataillons Pashtuns. Vous comprenez, on décalque le modèle français, occidental, américain, sur des régions qui en sont à des années-lumière. Bon, est-ce qu'on peut imaginer que le monde entier sera comme l'Amérique? Je ne crois pas. Je ne crois pas.
Merci Jean-Marie Pell de nous avoir donc présenté cet Afghanistan que vous connaissez. Et puis bah, très bientôt, la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis. Au revoir à tous.
up, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't I, ooh, 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 ooh,
Il était 3h32 ce matin lorsque la Terre a tremblé à L'Aquila, une secousse d'une vingtaine de secondes d'une magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter. Il y a des victimes, plusieurs dizaines, selon la protection civile qui fait cette première estimation. L'épicentre a été localisé à quelques...
Alors ça, évidemment, c'est l'actualité. On ne reviendra pas sur M. Berlusconi qui n'est pas avare d'une boutade de bon goût lorsqu'il s'agit effectivement de ce tremblement de terre que l'on va dire tout à fait naturel. Et ce qui nous a interpellé, c'est le dossier de ce numéro d'avril de Science et Vie qui s'intitule « Quand l'homme fait trembler la terre », entre parenthèses, mine, barrage, forage, trois petits points. Alors Boris Bélanger, on peut se dire ça peut faire sourire cette histoire, et pourtant il y a quand même une réalité et les scientifiques sont en train de plancher dessus. Alors racontez-nous.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut se dire qui a jamais vu une fourmi faire trembler un immeuble sur son passage? Pourquoi chercher la main de l'homme derrière un tremblement de terre? Et en fait, les scientifiques, depuis un certain nombre d'années, il faut dire, notamment pour les mines, se sont rendus compte que toutes ces activités étaient à même de réveiller les fractures qui parcourent le sol de notre planète, voilà, au point de créer des tremblements de terre comme celle la Terre en faisait jusqu'à présent.
On est dans le premier kilomètre à peu près.
Est dans les 5-10 premiers kilomètres.
Ah oui, quand même. Oui.
Voilà, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que la croûte est quand même épaisse. Hein, oui. Elle fait plusieurs kilomètres, elle va jusqu'à 30 kilomètres d'épaisseur. Nous, on ne mesure que 2 mètres. Donc on peut s'étonner d'avoir cette capacité à secouer cette énorme masse rocheuse.
Alors au départ, donc, le phénomène, c'est qu'on va se retrouver au-dessus d'une faille, on va dire. Donc c'est-à-dire une zone de fracture dans l'écorce terrestre. Ça délimite en fait deux compartiments rocheux et une activité donc humaine, et ça on va voir effectivement comment les scientifiques ont planché, peut donc ajouter des contraintes, quoi.
Tout à fait, c'est-à-dire que dans la croûte il y a déjà des forces en présence qui sont très impressionnantes. Verticalement il y a le poids des roches, des kilomètres de roches au-dessus, et puis latéralement il y a toute cette tectonique des plaques qui fait se rencontrer ou s'écarter des grands blocs de croûte terrestre à l'échelle du globe. Et l'homme, avec ses petits moyens mais pas si petits, s'ajoute à toutes ses forces en appuyant sur la croûte ou en enlevant de la matière. Voilà, il va rajouter des forces.
Soit il pèse ou bien soit il extrait quelque chose. Hein. Il extrait lorsque c'est une mine, lorsque c'est du pétrole, quand c'est du minerai, ou bien il rajoute, lorsque c'est un barrage. Quoi.
Voilà, alors pour le barrage, ce qu'il rajoute, c'est pas tant le barrage en lui-même, c'est l'énorme lac de retenue qu'il y a derrière, qui peut faire des milliards de mètres cubes. Et voilà, ça fait un poids conséquent qui va appuyer sur cette croûte terrestre et la forcer à se briser plutôt qu'elle ne l'aurait fait si l'homme n'avait pas mis son doigt dans l'engrenage.
En fait, c'est plus un déclencheur, on le voit dans votre enquête. Hein, l'homme est plus un déclencheur. De toute façon, la faille, elle existe là.
C'est ça. Il faut que la faille soit déjà présente et qu'elle soit déjà sur le point de jouer, sur le point de rompre. L'homme est là pour... Voilà, il va précipiter la survenue du tremblement de terre.
Alors comment, Boris Bélanger, donc on prouve cette activité humaine, on va dire cette ingérence, là j'imagine bien qu'on est entre le soupçon d'influence, la coïncidence entre le temps et l'espace, comment on fait?
Tout à fait, oui. Alors pour les scientifiques, si à strictement parler, c'est impossible de prouver à 100%, mais on a d'énormes faisceaux d'indices qui permettent de pointer l'homme du doigt, et notamment, donc en fait, il suffit de regarder comment un endroit se comporte entre... historiquement, avant que le barrage ou la mine, etc., soit mis en activité, et après. Et donc, on se rend compte souvent que la mise en place de cet ouvrage va créer des tremblements de terre, c'est-à-dire que la fréquence des séismes avant et après le passage de l'homme est complètement différente. Donc, non, au départ, c'est une coïncidence spatio-temporelle. À un endroit, il ne se passait rien, on met quelque chose, quelques mois, quelques années après, paf, on a un tremblement de terre, 2, 3, 4, voilà. Et qui est situé, la faille, à proximité immédiate de la mine, du barrage, du forage, etc. Donc c'est ce qui permet de localiser et de pointer un doigt accusateur sur l'homme.
Alors, on voit quand même un certain nombre de projets. On a eu le projet de géothermie profonde en Suisse, c'était en décembre 2006. Mmh. Une mine charbon aux États-Unis dans l'Utah en août 2007. Sarrebruck aussi en Allemagne, février 2008, qui sont retrouvés sous les projecteurs. Vous avez même pour le Sichuan, ce qui s'est passé donc au mois de mai 2008 en Chine, certains scientifiques qui relient cela à la présence donc, d'un barrage voisin. Tout ceci, on l'observe quand même. Hein. C'est pas une supposition.
Non, c'est pas une supposition. Le fait qu'on ne puisse pas prouver à 100%, c'est juste parce que la Terre est très complexe, on n'arrive pas à l'observer en profondeur, on n'est pas 10 km sous nos pieds pour voir comment la faille réagit exactement à ce qu'on fait, nous, en surface. Donc c'est en ça que c'est impossible à prouver, mais le faisceau est tel que, et puis les scientifiques font aussi, au-delà de ces rapprochements spatio-temporels, ils font aussi des modèles qui montrent que la force qu'on applique, nous, en surface, se propage jusqu'à la profondeur de la faille avec une intensité suffisante pour la faire se rompre. Voilà, donc c'est assez étayé quand même. Et, le problème là pour le cas chinois, c'est que ce séisme était tellement puissant, il est de magnitude 8, c'est un séisme énorme, il a fait presque 90 000 morts. Là, il y a un gros débat sur ce séisme parce que il est tellement énorme qu'on a du mal à imaginer que ce soit l'homme qui ait participé à son déclenchement. Parce que jusqu'à présent...
Avec le barrage qui n'était pas loin.
Voilà, le barrage était à quelques kilomètres du système de faille. Il avait été rempli quelques temps auparavant, quelques années, mais c'est suffisant pour avoir quelque chose. Et donc voilà, c'est pour ça que certains scientifiques ont fait le lien. Mais bon, pour l'instant, ça reste très très débattu. Mais à côté de ça, pour les séismes de moindre ampleur, il y a à peu près une centaine de barrages dans le monde qui ont été associés à des séismes de magnitude 3, 4, 5. Donc c'est beaucoup plus faible que ce qui s'est passé en Chine. Mais voilà, c'est des séismes palpables qui ont fait jusqu'à 200 morts. Il y a eu un cas d'école en Inde, à Coina, en 1967. Un séisme de magnitude 6,3, qui est l'équivalent de l'intensité du séisme qui a eu lieu en Italie en début de semaine. Et voilà, et ce séisme avait fait 200 morts à l'époque. Donc voilà.
Alors, on passera évidemment sur les essais nucléaires de la sympathique Corée du Nord, ça c'était en octobre 2006, parce que là, secousse magnitude 4,2, quoi, me semble-t-il. Bon, voilà, d'accord. Mais alors sinon, c'est intéressant de revenir aussi un tout petit peu en France. On s'est quand même rendu compte qu'il y avait, on va dire, pudiquement quelques bousculements dans la région de Pau.
C'est ça, bon, tout à fait.
Là qu'on a commencé à draguer effectivement les fonds, les premiers pompages, c'était en 1969. Oui. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus? Parce qu'en fait, c'était une région qui était quand même assez stable.
Voilà, ce gisement est situé dans le bassin Aquitain, qui est considéré au niveau sismique comme très calme, comme le sont un peu tous les bassins en France, notamment le bassin parisien, c'est une région presque qu'on considère à sismique. Et donc ce qui s'est passé dans cette zone-là, c'est que le pompage du gaz dans l'énorme gisement de lac, il a, à la manière d'une éponge, la roche qui contenait ce gaz, voilà, elle s'est rétractée, et puis les terrains qui étaient au-dessus, n'étant plus supportés par ce gisement, ont commencé par s'affaisser et ils se sont brisés le long de lignes de faille qui étaient au-dessus. Donc voilà, ça a créé un certain nombre de tremblements de terre. Et c'est un chercheur grenoblois qui s'appelle Jean-Robert Grasso, l'université Joseph Fourier, qui dans les années 80 a montré que l'exploitation était directement responsable d'une série de séismes qui avaient eu lieu. Et il a fallu un certain temps pour qu'il soit entendu, parce qu'il y avait un peu quand même d'omerta, il faut le dire, de la part de l'exploitant de ce gisement de gaz.
Faut le dire.
Voilà, on peut nommer. Mais voilà, aujourd'hui, c'est tout à fait...
C'est admis.
C'est admis par tout le monde que déprimer un gisement va en surface générer une série de tremblements de terre. Il y a d'autres exemples dans le monde, donc c'est tout à fait admis.
Alors, on peut se dire aussi, on sait qu'il y a des bonnes idées écologiques, on pense par exemple à la géothermie, qui est d'ailleurs assez peu exploitée, que ce soit en Ile-de-France, justement dans la région Aquitaine, ou bien en Alsace. On a donc des tests expérimentaux à Soultz-la-Forêt, là aussi en Alsace. Et quand même, ça, on voit bien qu'il y a des milliers de petites secousses
tout
par
à
mois.
Fait,
quoi.
Donc, tout à fait.
Parce qu'en fait, c'est pas forcément des grosses choses, on est bien d'accord.
Non, voilà. Là, pour... parce que, au contraire de ce qui se passe dans le bassin parisien, la géothermie, elle est pas très profonde. L'eau qui est puisée, c'est à quelques centaines de mètres, même pas. Alors que l'expérience pilote qui a lieu en Alsace, là, c'est à 5 km sous la surface. Mmh. Et le but de ce pilote, c'est de fracturer la roche à 5 km de profondeur pour injecter de l'eau qui va circuler dans un milieu qui a presque 300 degrés et remonter ainsi chauffée. Donc tout le but de la manip est de finalement réveiller les fractures qui sont préexistantes dans ce massif granitique. Et donc voilà, les ingénieurs à Soultz-sous-Forêt injectent de l'eau sous une centaine de bars,
c'est beaucoup
conséquent, et ils réactivent tout un système de failles. Et donc Quand ils font ça, ils génèrent des milliers de petites secousses qui, bon, on appelle ça des micro-séismes parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune maison qui se soit écroulée en Alsace à cause de ce pilote de géothermie. Mais quand même, ça dérange un peu les gens. Voilà, il y a un peu de plâtre qui tombe, etc.
Et on se rend compte que l'homme n'a pas forcément besoin de perturber fortement le système naturel pour qu'il y ait des réactions.
Oui, ça, c'est voilà. Les scientifiques s'en sont rendus compte en faisant un peu quelques calculs sur à quel point est perturbée la faille en profondeur. Ils se sont rendus compte que si la faille est vraiment très prête de se rompre, il suffit d'appuyer un tout petit peu pour lui donner le petit pourcent qui lui manquait avant qu'elle n'ait besoin de relâcher. Une petite pichenette. Et. Oui. En profondeur, ça peut correspondre à même pas un dixième de la pression atmosphérique, donc quelque chose d'impalpable quasiment, mais voilà, suffisant pour faire basculer la faille et qu'elle relâche son énergie qu'elle avait accumulée jusqu'à présent. Et c'est le séisme.
Alors, amis des auditeurs de France Inter, n'ayez pas peur, ne flippez pas, hein, vous inquiétez pas, là, sur la route des vacances, soyez quand même tranquille. Mais si vous souhaitez en savoir plus, moi, je vous renvoie donc à cet article tout à fait bien fait avec vous, Boris Bélanger, de Science et Vie, quand l'homme fait trembler la Terre, c'est dans ce numéro d'avril. Bon, vous restez avec nous.
Oui, bien sûr. Allez. Merci, Denis.
Ils mènent une vie sans excès, font gaffe à tout et se surveillent de près. Avoir un corps parfait, c'est un sacerdoce, mais leur capital santé mérite des sacrifices. Ils boivent de la bière sans alcool, elles mangent pas de viande, ça donne du cholestérol. Ils boivent leur café décaféiné avec du sucre, des sucrifiés. Est-ce de ma faute à moi? Si j'aime le café et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Elle met de la crème anti-âge, qu'elle combine avec un doux gommage, qui restructure en profondeur les macromolécules, en hydratant le derme contre les rides et les ridules. Comme il redoute l'effet peau d'orange, elle a eu un rameur pour leurs 10 ans de mariage. Il dit qu'il aime le sport, pas la compétition. C'est quoi ses coupes, ses médailles, bien en vue dans le salon. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto et boire des apéros. Les cheveux blancs des vieux, les enfants dépeignés, les rides au coin des yeux, les doigts dans le nez, le bordel, le désordre et le bruit, le pas bien rangé, le ça peut plus durer à notre santé. Des fois un criminel allume une cigarette, elle le fusille du regard et court vers la fenêtre. Elle dit à de l'air, c'est vivifiant, et aspire à plein poumon tous les bons gaz d'échappement. Il a des bombes qui vaporisent du poison contre tous les insectes de la création. Il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies. Il a des doutes sur ses voisins, mais les tuer c'est interdit. Et ses voisins, j'en fais partie. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé? Et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros.
Mais non, c'est pas de ta faute, Benabar, c'est pas de ta faute. À notre santé, bah oui, à notre santé, vous êtes bien sur France Inter, on ne boit que de l'eau, d'ailleurs on tient à vous le dire, de l'eau du robinet aussi, tranquillement. Et donc nous allons faire un petit tour du côté de France Bleu Loire-Océan qui accueille, on les remercie, Walter Bouvet qui est donc le directeur de la publication de Terra Eco. Vous en êtes à votre numéro 2 donc en kiosque de ce mois d'avril, avec quand même tout un dossier. Sommes-nous prêts à consommer mieux et surtout consommer moins?
et manifestement les Français commencent à s'y mettre gentiment. Et on va s'intéresser avec vous, Walter, peut-être à un sujet où on n'y pense pas parce qu'on est tous derrière nos clics, nos mulots, nos souris, on est vachement contents, mais les géants du net, comme vous le dites, ont le feu au câble.
Absolument.
Voilà, les serveurs quand même qui sont derrière, qui sont pratiquement des fermes, hein, faut imaginer des élevages de batteries, de serveurs un peu partout dans le monde, et ça dévore des watts, ça bouffe de la climatisation. Alors qu'est-ce que l'on peut dire, quel est le constat?
Déjà un constat un petit peu effrayant, ça représente cette consommation électrique, son impact en tout cas sur le réchauffement de la planète, ça représente autant qu'un pays comme l'Argentine ou la moitié de l'aviation civile internationale sur un an, donc c'est quand même pas rien. Alors effectivement, c'est les fermes que vous décrivez sont des énormes batteries qui font parfois des centaines de mètres, voire des kilomètres dans certains cas de long. On connaît les très gros comme Google, comme YouTube, qui évidemment sont les sites internet les plus fréquentés, donc avec des très très gros serveurs. En plus, le phénomène de la vidéo sur Internet, qui est très, très consommateur d'électricité.
Oui, c'est pas comme nos courriels, ni, on va dire, du texte. Hein.
Pas du tout, c'est considérable. Et la facture électrique, pour donner un chiffre, a été multipliée. Enfin, on estime qu'elle va être multipliée par 13 entre 2005 et 2012.
Oui, cool. Alors d'ailleurs, je vois aussi un chiffre tout à fait intéressant, c'est qu'en moyenne, pour 1 kWh utile dépensé par un serveur, il faut en brûler un deuxième pour la climatisation et un troisième pour garantir que le courant ne soit pas interrompu. C'est énorme. Hein, c'est...
Exactement. Ouais. On a eu, pour la petite histoire, quand TerraEco est sorti en kiosque, beaucoup de gens qui nous ont dit « Mais pourquoi vous faites du papier? Pourquoi vous ne vous contentez pas de l'Internet et de l'électronique ?» Ben, on a une partie de la réponse, c'est que le choix entre les deux n'est pas si évident. Et en tout cas, nos activités électroniques sont consommatrices de beaucoup, beaucoup d'énergie. Une requête sur un moteur de recherche, c'est l'équivalent en énergie de ce qu'on fait pour faire chauffer une tasse de thé.
Youpi. Alors, vous avez quelques grands groupes quand même qui s'y sont mis, c'est-à-dire qu'ils sont en train, pour certains, ils sont en train de délocaliser, ils sont en train de remonter vers le nord, vers le Canada, donc plus frais, leur ferme de serveurs.
Exactement.
Vous en avez d'autres qui sont sur des grandes barges aussi, racontez-nous.
Alors ça, c'est un projet de Google, hein, qui a déposé un brevet de bateau serveur, et l'idée, ça serait effectivement de poser les serveurs sur de grandes barges qui récupèrent l'eau salée pour la faire entrer dans des circuits de réfrigération, et l'énergie des vagues pour produire de l'électricité qui alimente les serveurs.
Oui. Donc là, ils essayent de boucler la boucle et aussi de produire leur propre énergie en essayant d'avoir des économies à la clé.
Exactement.
Et puis quand même, ils visent aussi, au lieu d'avoir 21 degrés, ils se disent qu'on peut monter à 26-27. Quoi.
Donc, voilà. Essayer de...
De toute façon, on essaye de faire baisser la note, hein, quoi qu'il
voilà,
arrive.
Voilà. Tolérer le fait qu'on ne climatise pas dès 21 degrés, mais qu'on climatise un petit peu plus tard, entre guillemets.
Alors, puisque Benabar nous disait à notre santé, mais vous allez voir...
Ah.
Voilà, c'est pas mal non plus. Alors, je sais pas.
Merci
si
Denis.
Chez vous d'ailleurs, c'est de l'eau, hein, vous savez. Mais enfin, de l'eau avec un bouchon, avec un bouchon de Liège, parce qu'on va s'y intéresser aussi. C'est un de vos articles tout à fait intéressant. C'est plutôt quand même assez écologique cette affaire-là, et on a toutes les chances lorsque l'on ouvre une bouteille, Walter, que ce soit un bouchon portugais. Hein. Alors racontez-nous un petit peu ce qui se passe autour du bouchon de Liège.
Alors déjà, c'est vrai que le Portugal est le principal producteur de bouchons de Liège dans le monde. Quand on traverse d'ailleurs le pays, qu'on remonte de Faro au sud en train jusqu'à la capitale Lisbonne, on traverse des forêts entières de chênes Liège qui sont déshabillées comme si on les avait comme si on avait ôté leur peau. Alors c'est assez choquant.
On a retiré leur pyjama, voilà.
Voilà, c'est ça. Oui. Alors une partie de l'écorce est maintenue, puis le centre du tronc, lui, est complètement écorché. Et donc avec ce Liège, on fait des tas de choses, dont des bouchons. Il se trouve que c'est une activité plutôt écologique. D'abord,
oui, parce que on rappelle juste quand même que cette couche qu'on lui retire, elle est constituée de cellules mortes. Hein.
Absolument.
Quand c'est bien effectué, je dis bien quand c'est bien effectué.
Quand c'est bien effectué, tout à fait.
Ça devient une ressource, on va dire, renouvelable.
Absolument. Ouais. Alors, le temps de rotation est assez long. Hein. On ne le dépèse pas tous les ans. Simplement, c'est une activité écologique. Ça permet d'entretenir les forêts. Donc, un impact positif sur la biodiversité. C'est de l'emploi local. Donc, a priori, le bouchon de Liège a plutôt tout pour lui. Sauf que, depuis les années 2000, on a vu débouler le bouchon en plastique, hein, qui a pris une certaine importance, puisqu'aujourd'hui, 2 bouteilles sur 10 sont équipés d'un bouchon en plastique.
Alors là, vous êtes amusé un petit peu à regarder entre la guerre des capsules et la guerre des bouchons, ce qui était intéressant. Qu'est-ce que ça donne ? Vous avez même des équivalents CO2. Hein.
Voilà, il y a des équivalents CO2. Alors, enfin, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que le bouchon de Liège, ce bon vieux bouchon, oui. Je ne vais pas faire mon conservateur ringard.
Ouais, non, mais non.
Voilà, a clairement l'avantage de ce point de vue-là, et que l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut maintenir ce qu'on appelle les suberaies, donc les forêts où on entretient et on exploite cette matière, le liège, sur tout le pourtour méditerranéen, parce que, encore une fois, ça contribue positivement à la biodiversité et à l'emploi local.
Voilà, donc les suberaies, c'est vrai que lorsque vous avez par exemple des gens qui s'appellent des soubérants, par exemple, ça vient de là, donc c'est les forêts de chêne-liège. Et alors, dans les Landes, on a encore une usine. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule hein, qui fait des bouchons. Donc c'est du côté de Souston, si vous connaissez cette commune d'à peu près 7000 habitants, me semble-t-il, aux Liégeurs. Et en fait, ils ne font pas que ça, parce qu'ils récupèrent tout. Parce qu'on se dit, bon, il y a le bouchon, mais il y a quand même des chutes. Et ils arrivent à faire autre chose.
Il y a des chutes. On fait, par exemple, des plaques d'isolant en liège depuis très, très longtemps. Et c'est un produit qui peut être recyclé, réutilisé, qu'on trouve dans des tas d'usages. Mais c'est vrai qu'il n'a pas trop la cote depuis quelques années.
Voilà. Et puis, juste moi, les chiffres que j'ai sous les yeux grâce à vous, on voit 8 grammes d'équivalent CO2 pour un bouchon, enfin pardon, de la forêt à la bouteille effectivement pour un bouchon en liège, et le bouchage plastique et aluminium dégagerait respectivement
10 à 25 fois plus.
Voilà, bon, bah écoutez, ça peut être aussi un critère de sélection, puisque de toute façon on aura des étiquettes CO2 dont vous nous parlez aussi dans Terra Eco. Juste aussi dans un des dossiers, donc l'interview de Nicolas Hulot, qui nous rappelle à juste titre que pour réguler certaines consommations et tarir d'autres, et bien il va falloir de nouvelles normes et de nouvelles fiscalités. Donc ça, c'est une chose que l'on ne vous dit pas, parce que ce n'est pas très porteur politiquement, mais on va avoir de la réglementation qui arrivera. On ne sait pas encore quand, mais on va avoir davantage de réglementation sur absolument tous ces domaines. Et puis que le bien-être consiste à trier dans les possibles et à se priver de certains choix. Donc voilà, c'est-à-dire qu'une fois de plus, dans ce monde dément où on a pensé que tout était infini, ben non, c'est plus cela. Et derrière, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des décisions politiques qui ne sont pas encore exactement prises dans ce domaine.
Absolument. Et cette idée selon laquelle ce qu'on appelle les éco-gestes, qui sont à la fois, je le dis un peu méchamment, mais insignifiants mais nécessaires, hein, c'est-à-dire c'est une prise de conscience et du symbole, ces éco-gestes nécessitent aujourd'hui qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on se pose des questions un peu structurelles, effectivement, qu'on convoque le politique pour prendre des décisions pas toujours très, très, très amusantes.
Ben non, c'est pas simple, parce que comme il n'a pas d'avenir non plus, c'est pas évident. Non, mais il le dit, c'est-à-dire, il dit nos éco-gestes ne sont pas à la hauteur des enjeux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire cela.
C'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est indispensable, c'est le début de la pelote, etc., donc il faut vraiment continuer à le faire, mais effectivement, derrière, il faut aller beaucoup plus loin. Alors je vous propose peut-être une petite pause, tranquillement, musicale, voilà, puis on va partir dans l'Empire du Soleil, après, ce sera juste après Mélodie Gardot.
My soul is a-weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a-weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Day long day. Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Day,
wreckage, a family drowned in pride and poverty. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My home is a wreckage, a family drowned in pride and poverty. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Oh Lord. Comfort me.
Jusqu'à son dernier souffle. Et heureusement, il y en aura d'autres. C'était Mélodie Gardot sur France Inter. Merci Emmanuel Chupin de l'avoir choisi. C'est très très agréable. On continue à feuilleter ce Terra Echo du numéro d'avril avec vous, Walter Bouvet. L'Empire du Soleil électrifiant. Ça, c'est très intéressant. Une société qui s'appelle Solar Electric Light Fund, qui n'est pas du tout dans la charité business, hein, qui pratique le microcrédit, qui a aussi donc, des fondations qui la soutiennent. Eh bien, donc, essaime des panneaux solaires dans une vingtaine de pays en se disant que cette fée électricité quand même peut arriver et aider 2 milliards d'individus qui vivent en situation de pauvreté énergétique. Alors, il ne s'agit pas d'aller leur fourguer forcément de la télévision, mais derrière tout ça, il y a le problème de l'eau potable, il y a le problème de la réfrigération des vaccins, de pouvoir faire marcher des ordinateurs. Racontez-nous donc qu'est-ce qu'ils font, comment ils fonctionnent ces gens-là.
Déjà, Self, c'est une ONG donc, qui a été créée dans les années 90, au début des années 90, d'abord en Asie, puis en Afrique. Aujourd'hui, elle a essaimé dans une vingtaine de pays. Et effectivement, le principe, c'est de dire il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui à l'électricité, qui sont pénalisées au quotidien. C'est-à-dire vraiment, je ne parle pas de petites coupures électriques, mais des choses qui empêchent de vivre et d'accéder à un développement minimal, on va dire. Eh bien, Self permet, grâce à ses panneaux solaires, de donner de l'énergie sans émettre de CO2. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que puisqu'on doit faire le développement de ces pays, on doit travailler dès aujourd'hui à l'exigence environnementale. Et derrière, effectivement, il y a des mécanismes de microcrédit, d'accès à l'énergie. Alors, on équipe comme ça des écoles, des hôpitaux. Ça permet de, vous le disiez, réfrigérer des vaccins, de mettre en place des pompes pour purifier l'eau. Et concrètement, ça change le quotidien dans ces pays. Ça permet aussi que des gens qui ont très très peu ne gaspillent pas tout ce peu à acheter des piles, du kérosène, des bougies. Alors, en plus avec de la toxicité, des risques d'incendie, enfin des tas de choses qu'on connaît. Et en gros, une installation, c'est à peu près 400 euros, elle est remboursée en 3 à 4 ans.
D'accord. Et donc, il y a plus d'un million de personnes qui bénéficient donc directement ou indirectement de l'électricité qui est produite par ces panneaux solaires. Donc, ça commence.
Tout à fait. Et voilà. Ça, elle fait déborder par la demande, hein, vraiment dans tous les pays, et démontre qu'on peut arriver à mettre en place un système vertueux dans lequel on fait accéder à un développement propre, dans tous les sens du terme.
Il voudrait donc essayer de prouver au monde qu'un pays comme le Bénin donc, peut fonctionner pratiquement grâce à l'énergie solaire. Enfin, c'est un peu ça le pari. Quoi. Mais c'est bien parce que ce n'est pas que l'utopie. Je veux dire qu'ils sont vraiment...
ils sont dans le concret. Hein, voilà, on change la ville.
On y est. Quoi. On est absolument les mains dans le cambouis. On va être les mains dans la lessive. Nous, c'est tout à fait intéressant. Dans notre grande série, peut-être les fausses bonnes idées. Les noix de lavage. Alors ça, j'attends les mails parce que ça va tomber. On dit, ouais, c'est formidable, etc. Voilà. Effectivement, elles sont naturelles. Elles ont des avantages. Ça, c'est absolument certain. Mais qu'est-ce
que l'on peut... Hein, pas de rejet toxique.
Voilà, non, disons effectivement pourquoi elles sont bonnes. Donc, il y a un vrai plus écologique. Hein. Vous avez peut-être entendu donc, parler de ces lois. On va dire qu'ils sont issus d'un arbre à savon. Hein, donc, elles contiennent à peu près 30% de saponine, donc qui est un nettoyant tout à fait naturel. Donc, alors voilà, donc on a quand même toxicité des rejets qui est quasiment nulle. Elles peuvent servir plusieurs fois. Elles consomment moins que de la lessive.
Mais oui. Parce qu'elles viennent d'Inde. Donc, l'Inde, c'est pas la porte d'à côté. Première point. Il y a du transport, on ne sait pas trop toujours comment ça vient. On ne sait pas non plus comment c'est cultivé et récolté là-bas. C'est-à-dire qu'on se pose la question, comme pour toute matière première, est-ce qu'on est sur une filière équitable? Est-ce qu'on est sur de la culture bio? Évidemment, on pousse toujours le bouchon un peu plus loin, hein, on devient de plus en plus exigeant, mais sur cette question de la noix de lavage, aujourd'hui, on n'a pas de réponse. En tout cas, on a une certitude, c'est qu'il y a beaucoup de transport et donc finalement, ça dégrade pas mal le bilan environnemental de cette technique.
Oui, donc en fait, pour vous, évidemment, c'est tout à fait efficace lorsque l'on est donc en Inde, quand on est au Népal, mais pas forcément quand même sur les pays européens où en plus on voit des culbutes qui sont complètement démentes au niveau des primes. Enfin bon, ça s'appelle le système libéral, ça.
Exactement. Voilà.
Bon, mais écoutez, un grand merci à vous, Walter Bouvet. Et puis,
merci,
donc,
Denis.
On se retrouvera tout à fait prochainement. On peut vous renvoyer donc à ce numéro de Terra Eco du mois d'avril. À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Je hais les bêtes.
Comment c'est possible ça?
Je t'emmerde!
T'es méchant!
Puis t'aimes rien!
CO2, mon amour, sur France Inter.
Bienvenue dans cette Angleterre victorienne pour rencontrer. Alors, deux personnes nous tiennent la porte. C'est d'un côté Darwin, de l'autre, c'est Marc Giraud. Bonjour Marc.
Bonjour Denis.
Hein, pas mal comme lancement.
Oui, oui, ça me plaît.
Alors, on va retrouver donc ce Darwin, bah, tout jeune, puisqu'il est, il est sur son bateau, qu'il n'aime pas. Nous avons passé le Cap Horn, nous remontons et là, nous arrivons au Galapagos. Bon, Galapagos, Darwin, Pinson, on y va. Qu'est-ce que l'on va raconter?
Oui, c'est le symbole de Darwin d'ailleurs. C'est la légende de Darwin, les Galapagos. Et oui. Ils ne sont pas d'ailleurs toujours justifiés parce qu'il a découvert bien d'autres choses. Dans son bouquin sur ses souvenirs du voyage à bord du Beagle, il n'en parle quasiment pas. Hein. C'est la fin du voyage vraiment. Le principal, c'est l'Amérique du Sud. Donc il arrive sur ces îles, il commence à être bien fatigué. Mm-hmm. Il fait des relevés géologiques. Il ne s'occupe pas tellement des animaux. Il va le regretter d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit, vous savez, sur chaque île des Galapagos, les tortues ont une forme différente. C'est la variation, c'est la clé de la théorie de l'évolution. Et il ne fait pas attention sur le moment. Et d'ailleurs, les 20 tortues qu'ils vont prendre, qu'ils vont amener à bord, ils vont les manger, ils vont jeter les carapaces comme des vulgaires déchets de cuisine, alors que c'est la clé du truc, quoi. Et les pinsons, à peu près pareil, ils laissent son assistant les attraper, ils ne notent pas là où ils ont été attrapés, donc il n'y a plus de valeur, il est très négligent. Mm-hmm. Et heureusement, il y a John Gould, un ornithologue anglais très méticuleux, qui va s'apercevoir que ces pinsons sont en même temps apparentés et d'espèces différentes. Et c'est là que le déclic va commencer, il va se dire...
Mais ça, c'est intéressant. Ça vient pas de lui, on va dire directement. Enfin,
c'est encore plus fort parce que c'est pas une espèce d'éclair de génie comme ça qui lui est venu tout seul. Il croyait que tous ses pinsons étaient de la même espèce. Et en fait, il s'est servi de son erreur et par sa réflexion, il a fini par penser que tous ses pinsons avaient un ancêtre commun et avaient évolué différemment suivant les îles et suivant la nourriture.
Oui, parce que donc évidemment, ce fameux isolement géographique, on va rappeler que ce sont des îles qui sont volcaniques, on a une végétation qui est tout à fait maigrelette. Mmh. Et donc, on se rend compte qu'il y a une spécialisation des espèces pour se nourrir.
Oui, absolument. Et on en a la preuve aujourd'hui parce qu'il y a un couple de naturalistes qui s'appelle les Grant qui, depuis 1972, quand même plus de 30 ans, étudient les pinsons sur une île. Ils les attrapent tous. Ils leur mettent des petites bagues pour les observer de loin. Ils sont aperçus qu'au fur et à mesure des sécheresses, par exemple, à cause du courant El Niño, la nourriture change, il y en a beaucoup moins. Et quand il y a sécheresse, les graines sont beaucoup plus dures et grosses. Et seuls les pinsons qui ont un gros bec résistent. Tous les autres meurent. Et on voit l'évolution des formes les plus adaptées à l'échelle humaine, quoi. On voit l'évolution en direct.
Parce qu'il y a une adaptation en fait, des becs qui s'est effectuée. On va rappeler qu'il y a eu quand même deux sécheresses très importantes, 1977 et 1982. Et même déjà entre les deux, on a vu aussi une sélection qui s'est opérée. Et...
Absolument. Alors le petit point important à dire, c'est que l'adaptation, ça ne va pas dans le sens, l'animal se dit, tiens, il faut que j'ai un gros bec. Non. Il y a des animaux qui surgissent par hasard avec la variation gros bec, et c'est ceux-là qui transmettent leur caractère. Très, très important. C'est le hasard. C'est ça qui a fait scandale, mais on en parlera plus tard.
Au revoir Marc Giraud, merci.
Au revoir Denis.
Oh oui, jusqu'au bout le petit pinson avec quand même cet ouvrage édité chez Robert Laffont, donc de Marc Giraud, Darwin, c'est tout bête. C'est très intéressant, on continuera à feuilleter cet album. Pour rester dans le sujet, tenez, écoutez ce son.
Thomas Huxley, le compagnon de Darwin, celui qu'il défendait quand il y avait des débats, a écrit « La nature n'est ni morale ni immorale, la nature est amorale ». Et c'est un problème parce que jusque-là, on pensait pouvoir trouver des règles de conduite dans la nature. Or, depuis Darwin, on n'en trouve plus. C'est-à-dire qu'on peut être un peu effrayé par le fait que notre société actuelle ne trouve pas d'autre moyen de décider ce qu'elle doit faire que de faire des calculs économiques. Et sur ce plan-là, je trouve que les scientifiques sont un peu fautifs parce qu'ils jouent le jeu avec tout le monde. et j'espère que les abus actuels de la technoscience ne décrédibiliseront pas la science au point qu'on finisse par l'abandonner.
Alors cet homme donc qui parle, c'est Pierre-Henri Gouillon, que vous retrouverez dans quelques instants avec Fabienne Chauvière dans Les Saventuriers, qui est biologiste au Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc spécialiste de l'évolution, de la génétique, de l'écologie, on n'est pas du tout dans le créationnisme, je vous rassure, pas du tout, du tout, du tout. Donc Fabienne, dans quelques instants, et puis nous on va se retrouver la semaine prochaine.